Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mamadou Oumfa, je suis avec Rosine Mounezero pour la co-présentation. Bonjour Rosine.
Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons des couples séro-discordants, appelés aussi séro-différents. Docteur Aoulé Serge.
J'ai un couple, c'est deux personnes qui ont leur statut sérologique par rapport au VIH, donc différent. L'un positif et l'autre négatif pour le VIH.
Dans cette édition, nous tenterons également de comprendre pourquoi certains malades ne transmettent pas le virus à leur partenaire sexuel. Damien De Walck.
Les personnes séropositives sont très infectieuses juste après qu'elles étaient elles-mêmes infectées et ensuite plusieurs années plus tard quand elles sont malades. Mais pendant le long intervalle pendant lequel elles n'ont pas de symptômes, le risque de transmission est en réalité assez bas.
Nos invités vont aussi nous expliquer pourquoi certains organismes résistent au virus. Israël Ganoé.
Soit la personne qui demeure séronégative a une malformation congénitale ou bien le virus qui a infecté l'hôte est défaillant. Et il y a des personnes qui ont un système immunitaire suffisamment fort et ces personnes ne peuvent pas être infectées du virus.
Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le docteur Amangenkab répondra une fois encore aux questions des auditeurs. Mais tout de suite, commençons par l'actualité.
Coup d'œil sur l'actualité.
Comme d'habitude, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin.
Bonjour Rosine.
Alors commençons par l'épidémie de choléra qui sévit en République démocratique du Congo. L'OMS redoute une propagation de la maladie dans la ville de Kinshasa.
Oui, Rosine, le 15 janvier dernier, le docteur Matidizo Mweti, directrice Afrique de l'OMS, a donné un point de presse dans la capitale congolaise. Elle s'est dit inquiète d'un haut risque de propagation de l'épidémie de choléra à Kinshasa, mégalopole de quelques 10 millions d'habitants avec des problèmes de sanitaire et d'évacuation des eaux aggravées par de récentes inondations. Pour le moment, l'épicentre de la maladie est au camp Luka, un quartier déshérité du centre de Kinshasa, marqué par la première promiscuité, l'absence de toilettes et le manque d'adduction d'eau.
Et les autorités congolaises et leurs partenaires sont d'autant plus préoccupés qu'il s'agit d'une des pires épidémies de choléra que le pays ait connue.
Effectivement, Rosine, l'épidémie de choléra frappe 23 des 26 provinces de la RDC depuis 2017, avec près de 50 000 cas et autour de 1 000 décès selon Médecins Sans Frontières. Cependant, la riposte se déploie. Au camp Luka, Médecins Sans Frontières a installé une de ses deux unités de traitement depuis quelques jours. Pour sa part, l'OMS affirme avoir livré 11 tonnes de médicaments aux autorités congolaises, essentiellement des antibiotiques et produits contre la déshydratation. Rappelons que le choléra est une maladie diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio choléra.
VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mounezero
et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Parlons encore du choléra, mais cette fois en Zambie. Selon les autorités zambiennes, la lutte contre la maladie porte timidement ses fruits.
En effet, le 13 janvier dernier, ces autorités ont annoncé une timide amélioration sur le front de la lutte contre l'épidémie de choléra qui frappe le pays avec la réouverture prochaine de l'école internationale et de certains établissements commerciaux de la capitale Lusaka. Les dites écoles ont été inspectées et respectent les conditions d'hygiène, a indiqué le ministre de la Santé, Chitalu Chifuya. La situation des écoles publiques de tout le pays sera réévaluée lors de la dernière semaine de janvier en vue d'une éventuelle réouverture.
Il faut en effet dire, Firmin, que la fermeture de ces écoles fait partie des mesures prises pour enrayer l'épidémie.
Oui, Rosine, le gouvernement a pris une série de mesures, dont l'interdiction des rassemblements publics et le report de la rentrée scolaire dans tout le pays, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu à Kanyama, le bidonville de la capitale considéré comme le principal foyer de la maladie. L'épidémie qui frappe le pays a débuté fin septembre dernier et frappe essentiellement la capitale du pays. Selon le dernier bilan publié le 13 janvier, plus de 3 000 cas ont déjà été recensés et 72 personnes ont perdu la vie. la vie du fait de cette épidémie.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
À Madagascar, enfin, plusieurs enfants sont morts suite aux intoxications alimentaires selon les autorités sanitaires.
Effectivement, Rosine, 8 personnes sont mortes ces deux dernières semaines dans le nord de Madagascar d'une intoxication alimentaire provoquée par la consommation de viande de tortue de mer, un animal protégé. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP Borouani Saïd, un représentant local du ministère de la Santé. Les 8 victimes sont des enfants, a pour sa part indiqué un porte-parole de la gendarmerie.
Comme mesure de prévention, les autorités déconseillent la consommation de certaines espèces animales.
Tout à fait. La consommation de tortue marine et de 24 autres espèces de poissons est formellement déconseillée par les autorités sanitaires de la Grande Île pendant la saison chaude. Ces espèces se nourrissent d'algues qui, de novembre à mars, sont toxiques pour ceux qui en mangent la chair. En décembre dernier, 8 personnes étaient déjà mortes d'intoxication alimentaire dans la même province malgache d'Antsiranana, après avoir mangé de la sardinelle, une variété de poisson.
Vivement que les populations observent les consignes des autorités pour éviter d'autres cas d'intoxication. Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Le VIH-Sida, comme certaines maladies, conserve encore de nombreux secrets et curiosités pour les praticiens malgré les progrès de la recherche. Alors que les rapports sexuels non protégés sont le principal mode de transmission du VIH, de nombreux couples sont sérodifférents bien qu'ayant des rapports sexuels non protégés depuis plusieurs années. C'est à cette curiosité que nous nous intéressons cette semaine. Pourquoi certains couples sont sérodifférents? Pourquoi le partenaire séropositif ne transmet-il pas le virus? Comment vivre avec cette différence? Les couples peuvent-ils avoir les enfants sains? Ces questions, nous les avons posées au docteur Aoulé Serge, praticien à l'hôpital de Bonnois en Côte d'Ivoire. Avant d'y apporter les réponses, il commence par nous définir ce que c'est qu'un couple sérodiscordant.
Un couple sérodiscordant ou sérodifférent, c'est donc, comme on dit, un couple, c'est deux personnes qui vivent ensemble. Voilà, un homme, une femme, habituellement. Non, c'est un homme, une femme, pas d'un homme, une femme. Voilà. Alors, qui ont leur statut sérologique par rapport au VIH, donc différent. Voilà. L'un positif et l'autre négatif pour le VIH. Voilà. C'est dans ce cas-là qu'on parle de sérodifférence ou de sérodiscordance.
Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un couple soit effectivement en relation depuis longtemps et soit sérodifférent? Comment comprendre ce phénomène?
Bon, nous-mêmes, on cherche toujours à comprendre. c'est des constats qu'on fait. Enfin, c'est des constats qu'on fait. Des personnes qui vivent pendant longtemps ensemble, l'un a infecté l'autre pas. Ça arrive. Bon. De façon scientifique, moi, on ne fait pas de recherche là-dessus. Mais ce que nous, on sait, c'est que, on a des personnes. Moi-même, personnellement, je suis des couples sérodifférents. Pendant des années, ils sont toujours sérodifférents. Donc, j'ai parmi mes patients des couples sérodifférents, sérodiscordants.
Est-ce qu'ils se protègent?
Bon, ce que je peux dire, c'est que. Au début, vous savez, lorsqu'on fait le test de dépistage, et c'est là quand on découvre qu'ils sont sérodifférents, puisqu'ils ne savaient pas séropositif ou séronégatif avant. C'est lorsqu'ils viennent à l'hôpital qu'ils font le test de dépistage VIH. Et c'est là qu'on va découvrir que l'un est positif et que l'autre est négatif. C'est à partir de ce moment qu'on leur donne quand même des conseils, voilà, pour que la sérodifférence reste comme ça et que ça ne change pas. Et les conseils qu'on leur donne habituellement, c'est d'abord la personne qui est infectée, on la met sous traitement. On la met sous traitement et puis voilà, et puis il y a le port aussi de préservatifs lors des rapports sexuels. C'est essentiellement ça, dans un couple.
Et comment vous procédez pour cette prévention?
Oui, justement, c'est ce que je dis. On leur donne des conseils de vie. Donc, ils auront des rapports sexuels. Donc, on leur donne des conseils. Pour la prévention, la première méthode, c'est le port de préservatif. Ce qu'on a appelé habituellement le condom, c'est le préservatif. Surtout masculin, parce que le féminin, bon, c'est encore un peu compliqué. Mais voilà, le préservatif masculin. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la personne qui est malade, on la met automatiquement sous traitement. Parce que le traitement aussi réduit tellement considérablement le virus dans le sang que ça peut aussi. C'est une méthode de prévention, le traitement aussi, le traitement antirétroviral.
Et il n'arrive pas que après autant d'années que vous trouviez l'autre séropositif?
Non, ben, sinon pas respecté quand même.
Avez-vous des cas pareils dans votre...
Ça peut arriver, parce que c'est pas parce qu'on prend le médicament, c'est pas parce qu'on se protège, il peut y avoir des accidents. Puisque de toutes les façons, la contamination, elle est toujours possible, même si elle est réduite. Lorsqu'on a le traitement, lorsqu'on le malade, celui qui est infecté prend les médicaments, les antirétroviraux, ça réduit la contamination, mais la contamination n'est pas nulle, en fait. Le risque de contamination n'est pas nul. C'est pas zéro, le risque de contamination n'est pas nul. Ça veut dire que c'est pas parce que la personne infectée prend le médicament que lorsqu'on fait des examens, il y a des examens qu'on fait pour savoir si le traitement marche bien, notamment la charge virale qu'on fait. Quand la charge virale, quand on ne dit pas de charge virale indétectable, même quand elle est indétectable, il y a toujours des virus dans le sang de la personne. C'est pas ce que vous comprenez.
Mm-hmm. Mais qui
Donc la contamination n'est jamais nulle. C'est pas 0% de contamination.
Docteur, au-delà de la contamination du VIH, est-ce que les maladies opportunistes comme la tuberculose et autres ne rendent pas difficile la cohabitation chez des couples sérodifférents?
Quand le malade, les patients viennent à nous, surtout dans le cas des couples sérodifférents, il faut systématiquement mettre la personne infectée sous traitement. Ça réduit considérablement ce qu'on appelle, vous appelez tuberculose une maladie opportuniste, mais ça, le risque de contaminer la tuberculose devient faible si elle prend le traitement. Même dans le cas où ça survient, mais la tuberculose est guérie, on traite la tuberculose. Et nous, ici, on traite la tuberculose en 6 mois. Donc, je ne pense pas que ça puisse être, comment je peux dire, un problème majeur.
Oui, quel est le pourcentage que vous avez des couples pareils?
Je vois des malades. Moi, dans ma cohorte, je ne pense pas que j'ai plus de 4 personnes. Mais bon, je n'ai pas fait de calcul. On ne rencontre pas, les couples sont différents, on ne se rencontre pas facilement, mais bon. Moi, je n'ai pas beaucoup. J'ai plus 3-4 personnes, couples. Je n'ai pas fait des calculs pour avoir les pourcentages.
Des conseils à donner à un couple sérodifférent qui veut faire des enfants, qui veut avoir des enfants?
Ouais, mais nous, on a des couples sérodifférents qui font des enfants. Donc, c'est possible de faire des enfants. Tout est simple quand le couple se fait suivre par son médecin. Hein? Quand vous faites suivre correctement, vous faites tous les examens qu'on demande de faire, on peut faire des enfants. Parce que le traitement antirétroviral est tellement efficace qu'il arrive même que des personnes infectés, ils peuvent avoir des rapports non protégés avec leur partenaire, faire des enfants. Mais on peut évidemment des précautions. On peut par exemple mettre le partenaire qui n'est pas infecté sous traitement préventif pendant une période, le temps qu'ils aient les rapports, le temps pendant lequel ils ont les rapports non protégés, là, on met le partenaire qui n'est pas affecté sous traitement. Ça réduit aussi le risque de contamination. Voilà, donc la personne qui fait des enfants, c'est possible. On peut faire des enfants. Et de la même manière, la personne, si c'est la femme, parce que là, il faut faire la différence. Si c'est la femme qui est infectée, vous allez voir que là, puisque c'est elle qui va porter l'enfant, il est encore très important que cette personne puisse être sous traitement. Parce qu'aujourd'hui, les femmes même infectées font des enfants qui sont sains, qui ne sont pas malades.
Oui.
Avec le traitement antirétroviral, vraiment, tout est possible.
Nous remercions le docteur Aoulé Serge qui nous répondait depuis la Côte d'Ivoire.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Cette semaine, nous avons deux témoignages. D'abord, celui de Damien De Walck, chercheur à la Banque mondiale. Il a conduit une étude dans 6 pays d'Afrique centrale entre 2003 et 2004. Selon cette étude, dans au moins 2/3 des couples infectés par le VIH, un seul est porteur du virus. Il nous a expliqué pourquoi.
Généralement, les gens pensent qu'une fois qu'un des partenaires dans un couple est infecté par le virus du VIH, l'autre partenaire sera rapidement infecté à son tour. Mais en fait, c'est pas le cas. Parce que bien qu'il n'y ait jamais vraiment de risque de transmission zéro, les personnes qui sont séropositives sont très infectieuses juste après qu'elles aient été elles-mêmes infectées et ensuite, plusieurs années plus tard, quand elles sont au stade du sida et deviennent malades. Mais pendant le long intervalle pendant lequel elles n'ont pas de symptômes, le risque de transmission est en réalité assez bas. Et ce risque de transmission est encore plus faible lorsque le partenaire séropositif reçoit les thérapies antirétrovirales qui traitent le sida. Cependant, je note que dans les bases de données que j'ai utilisées pour l'enquête, l'accès à ces médicaments était sans doute assez limité étant donné l'époque à laquelle ces enquêtes ont été conduites.
Votre étude démontre aussi que dans une proportion importante de cas, seule la femme est porteuse du virus. Alors, comment en êtes-vous arrivé à ce constat? Pourquoi la femme?
Oui, c'est l'autre résultat surprenant de cette étude, parce que, au moins au départ, la plupart des gens pensaient que la transmission du VIH-Sida en Afrique était essentiellement le fait des hommes qui avaient des partenaires multiples et qui finissaient par infecter leur épouse ou la partenaire avec qui ils vivaient. Et les résultats de l'étude montrent que si ce type de transmission est certainement présent, faut pas l'occulter, il n'est pas le seul, puisque dans un tiers des couples, seule la femme est séropositive. L'étude considère différentes explications possibles pour ce résultat, y compris la possibilité que les femmes aient été infectées avant leur mariage ou cohabitation présente. La conclusion cependant auquel on arrive, c'est que si une infection au VIH préalable au mariage peut en effet expliquer certains cas, cela ne suffit pas à expliquer la fraction importante de couples où seule la femme est séropositive. En fait, il est difficile d'expliquer cette fraction sans l'existence d'une activité sexuelle des femmes en dehors du mariage ou de la cohabitation. Il se peut que l'activité sexuelle des femmes en dehors de leur couple soit plus fréquente qu'elle n'est généralement admise dans les enquêtes. Ou bien même si elles ne sont pas fréquentes, ces rencontres hors couple peuvent être source de vulnérabilité pour les femmes. Par exemple parce qu'elles sont moins susceptibles d'utiliser des préservatifs que les femmes célibataires ou les hommes mariés. Et je voudrais noter que l'objet de cette étude n'est pas de montrer du doigt des comportements, de blâmer ou de suggérer que dans les couples, les femmes seraient entre guillemets aussi coupables que les hommes. On doit par exemple se rappeler que dans de nombreux cas, les rapports sexuels en dehors du couple peuvent être imposés aux femmes.
Quelle politique de santé publique pensez-vous que les gouvernements, les ONG et tous ceux qui sont impliqués dans le secteur puissent mener pour aider les couples séro-discordants?
Oui. Bon. En effet, les résultats de cette enquête suggèrent que c'est important d'étendre les efforts de prévention aux partenaires des personnes séropositives pour éviter que le virus ne se propage davantage. Une politique de santé, par exemple, qui pourrait être très utile, c'est de promouvoir le dépistage volontaire conjoint parmi les couples, que les couples viennent ensemble pour se faire tester. Une autre est d'encourager les patients du sida à révéler à leurs partenaires leur statut et leur utilisation des médicaments antirétroviraux pour pouvoir discuter et prendre ensemble des décisions de prévention. Je pense que les politiques de prévention du VIH devraient prendre aussi en compte le fait que les partenaires non infectés sont une cible prioritaire et aussi que les femmes sont presque aussi susceptibles de transmettre le virus à leur partenaire masculin non infecté que les hommes de le transmettre à leur partenaire féminin séronégatif. Quelles qu'en soient les raisons, y compris lorsqu'elles sont forcées ou imposées, les relations sexuelles en dehors du couple sont une source de vulnérabilité importante au VIH-Sida pour les femmes et mettre sur pied des programmes de prévention pour cette partie de la population féminine est important, même si je reconnais que ce n'est pas facile, vu que la culture du silence autour de la sexualité des femmes dans certains pays africains et la stigmatisation qui s'attache encore aux porteurs du virus du sida, en particulier quand ce sont des femmes. Mais je pense que ce ne serait pas rendre service aux femmes que d'ignorer, à côté des autres voies de transmission reconnues, le rôle joué par l'activité sexuelle des femmes en dehors du couple dans la transmission de l'épidémie. Il est important que tant les hommes que les femmes soient informés des risques de santé associés aux rapports sexuels non protégés hors mariage ou cohabitation et que les femmes aient la capacité de pouvoir dire non aux rapports sexuels hors mariage non protégé.
Le second témoignage est celui de M. Israël Ganoué, directeur du programme du RAPLUS, le réseau africain des personnes vivant avec le VIH. Selon lui, il existe des couples séro-discordants qui vivent la différence sans problème grâce à la confiance, au dialogue et à un bon suivi médical. Il est au micro de nos partenaires de Radio Côte d'Ivoire.
Il y a certaines personnes qui entrent dans une relation sachant déjà leur statut, malheureusement, et ça doit pas être. Mais il arrive aussi que des personnes ignorent totalement leur statut et en coup de route, ces deux personnes font leur test et une personne est positive, une personne est négative.
Régulièrement, ces personnes ont des rapports sexuels non protégés, mais celle qui est séronégative n'est toujours pas contaminée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce fait-là? C'est assez rare, hein?
Des couples séro-discordants existent, j'en connais. Mais ce qui se passe, c'est que on dit qu'il y a des personnes qui souffrent d'une malformation congénitale. C'est-à-dire que les globules blancs sont faits de sorte que la personne ne peut pas être infectée par le VIH. Soit la personne qui est séronégative, qui demeure séronégative, à une malformation congénitale ou bien le virus qui a infecté l'autre est défaillant. Et il y a des personnes qui ont un système immunitaire suffisamment fort et ces personnes ne peuvent pas être infectées du virus.
Donc toute sa vie, cette personne ne sera jamais contaminée par le VIH.
Oui, il existe des personnes comme ça qui ne pourront jamais attraper le VIH.
Ce sont des vénards. Hein?
C'est vrai. Il y a des personnes qui ne pourront jamais attraper le VIH. Mais on ne peut pas savoir toujours. Donc ce qui se passe en général, c'est que dès qu'on sait qu'un couple est séro-discordant, qu'une personne dans le couple est positive et une autre négative, les spécialistes conseillent toujours que ce couple commence à utiliser le préservatif parce qu'on ne sait pas à quel moment il peut avoir risque d'infection.
Comment doivent vivre ces personnes-là au quotidien?
Dès qu'ils sont informés de leur statut sérologique VIH positif et négatif, ils doivent prendre les précautions, ils doivent éliminer le risque en utilisant désormais le préservatif. Sauf si ils commencent à éprouver le besoin, le désir d'avoir un enfant.
Alors dans ce cadre-là, qu'est-ce qui va se passer s'ils éprouvent un besoin de procréation?
Même quand les deux personnes sont séropositives, on s'approche toujours des médecins, des spécialistes qui disent comment il faut procéder. Donc on va donner des conseils appropriés. Quand ils vont sentir le besoin, le désir d'avoir un enfant, ils vont s'approcher de leur médecin traitant qui va leur donner des conseils précieux, des conseils utiles qu'ils pourront suivre pour avoir un enfant. Eux, ils sont sérodiscordants, mais il y a même des couples où les deux, monsieur et madame, sont séropositifs. Et quand ils veulent avoir des enfants, avec des conseils, ils parviennent à avoir des enfants. Il y a plusieurs couples séropositifs et sérodiscordants qui continuent de faire leurs enfants. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont possibles avec l'avancée de la science, avec les traitements qui sont disponibles. Les gens arrivent à faire leurs enfants. Seulement, il faut qu'ils se confient à des médecins qui vont leur donner des conseils médicaux qu'ils devront suivre absolument.
C'est sûr que dans un tel couple, hein, il faut une bonne dose d'amour hein, pour que le couple continue à vivre ensemble, malgré le fait que l'un des partenaires soit infecté. À quelles difficultés ces couples-là sont-ils confrontés?
Oui, il y a des risques qu'une personne ait peur. Souvent, ce sont des blocages psychologiques. Et vous savez que les relations intimes ont besoin de beaucoup de dispositions aussi. Et donc, quand une personne doit avoir, par exemple, peur, il faut éliminer la peur dans les relations habituelles de tous les jours. Il faudrait soutenir l'autre, il faudrait aimer l'autre, il faudrait protéger l'autre, éviter la discrimination, éviter de stigmatiser l'autre. Et aussi, la peur n'a pas sa place dans cette relation-là. Parce que ça peut enlever le bonheur, ça peut enlever le goût de vivre même, parce que ça devient difficile. Quand on doit vivre avec l'autre, la peur au ventre, c'est difficile. Il faut éviter de prendre des risques.
Alors, monsieur Israël Ganoué, qu'est-ce qu'on doit retenir concernant les couples sérodiscordants?
Les couples sérodiscordants existent. Scientifiquement, les éléments ne sont pas très nombreux. Peut-être que ça relève aussi du miracle. Et les couples sérodiscordants existent. Et pour ceux qui le sont, ils doivent se soutenir. Les personnes vivant avec le VIH en général ne doivent pas être discriminées, ne doivent pas être rejetées. Le VIH, il est presque maîtrisé. La question du VIH n'est plus un souci. Le VIH reste toujours un problème de relations humaines. C'est la méchanceté humaine qui fait qu'on parle encore du VIH. Du point de vue médical, c'est maîtrisé. Les personnes vivant avec le VIH vivent comme tout autre, font leurs enfants, pratiquent le sport, sont dans tous les milieux, que ce soit dans les marchés, dans les entreprises, à la tête des structures. Les personnes vivant avec le VIH sont partout et c'est tout le monde en même temps. Donc ce que nous disons, il faut se soutenir, il faut éviter de discriminer les personnes vivant avec le VIH.
Nous remercions nos partenaires de Radio Côte d'Ivoire pour ce témoignage.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
La question de l'auditeur nous vient de Kinshasa en RDC. Pour y répondre, nous avons sollicité l'expertise du docteur Armand Genkap. Il est médecin, urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Bonjour docteur. Mon frère a 10 ans et fait encore pipi au lit. Est-ce que c'est normal, docteur? Jusqu'à quel âge peut-on s'arrêter de faire pipi au lit? Qu'est-ce que je peux faire pour mon frère?
Ben, il faut dire que faire pipi au lit en médecine, ça s'appelle l'énurésie. En fait, c'est une miction, enfin, c'est une façon de faire pipi de façon complète, de façon involontaire, vraiment, surtout, de façon inconsciente, et ceci pendant le sommeil de l'enfant. Le contrôle physiologique, notamment de ce sphincter vésical là qui permet d'éviter de faire pipi, s'acquiert à partir de 5 ans. Donc, on va effectivement dire qu'un enfant souffre du fait de faire pipi au lit lorsqu'il continue à faire pipi au lit au-delà de l'âge de 5 ans. En dessous, c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a des enfants qui vont être propres, comme on dit, la nuit, très précocement, mais il y a d'autres qui vont être propres la nuit tardivement. Mais à partir de 5 ans, on peut constater que c'est une anomalie. Là aussi, on a 10 à 15% des enfants de 5 ans qui font encore pipi au lit et Lorsqu'ils ont 8 ans, ce chiffre tombe à 6 à 8%. Et lorsqu'ils ont plus de 8 ans, à savoir 10 ans comme le frère de l'auditeur qui appelle, ce chiffre tombe entre 1 et 2%. Mais il faut avouer que progressivement, l'enfant va connaître la maturité de sa vessie, à savoir qu'il va réussir à contrôler un tout petit peu sa miction la nuit dans son sommeil du fait de cette maturité vésicale-là avec l'âge. Toutefois, l'auditeur ne précise pas si le fait de faire pipi au lit est quelque chose de permanent, à savoir toutes les nuits, ou si c'est quelque chose d'épisodique. En général, lorsque l'enfant fait pipi au lit de façon permanente, là on est vraiment en présence d'une énurésie maladie, à savoir d'une pathologie, d'un acte concret, d'une immaturité vésicale qui va se manifester effectivement par des incontinences nocturnes toutes les nuits. Mais si cet acte-là survient de façon épisodique, à savoir que ce n'est que de temps en temps, quelques nuits, de façon exceptionnelle que l'enfant fait pipi au lit, là il faut aller chercher une autre cause. En général, les causes sont plutôt des causes d'ordre psychologique. Il y a peut-être un trouble psychologique dans la famille, il y a peut-être quelque chose qui est survenu dans la famille qui bouleverse psychologiquement l'enfant. Et à ces niveaux-là, on se trouve en présence vraiment d'une énurésie qui est d'origine psychologique. Quoi qu'il en soit, le conseil que je peux donner à notre auditeur, dans un premier temps, c'est déjà le rassurer en disant que son frère ne continuera pas à faire pipi au lit. Au bout du compte, cette vessie-là connaîtra sa maturation et il fera de moins en moins pipi au lit. Mais il faudrait quand même qu'il amène son frère consulter un médecin afin qu'il puisse déterminer vraiment la cause. Si la cause est une cause maladie du fait d'une immaturité vésicale, il y a effectivement des traitements qui existent qu'on peut donner à l'enfant pour qu'il puisse avoir moins envie de faire pipi au lit. C'est des médicaments qu'on donne contre ce qu'on appelle l'énurésie, médicaments qu'on donne vraiment contre l'incontinence nocturne de l'enfant. Et c'est un médicament qui va accélérer la maturation vésicale. Par contre, si c'est d'ordre psychologique, bon, bien évidemment, il faut un suivi psychologique. Dans l'attente, les conseils que je peux donner à notre auditeur, c'est que dans un premier temps, le soir, il faut éviter de faire boire cet enfant-là dans les heures qui précèdent le fait qu'il va aller au lit. Il faut éviter de le faire boire des boissons. Et surtout, il faut absolument l'amener faire pipi avant qu'il ne se couche. Voilà les deux mesures qui vont lui permettre d'éviter de faire pipi au lit en attendant une éventuelle consultation médicale pour préciser exactement la cause. Voilà ce que je pouvais dire à cet auditeur.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux couples sérodiscordants. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Aoulé Serge, médecin en service à l'hôpital de Bonoy en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons essayé de comprendre comment vivre avec cette différence. Deux témoignages nous ont permis de tenter une explication sur ces cas. D'abord, celui de Damien De Walk, chercheur pour le compte de la Banque mondiale, qui a conduit une étude sur les couples sérodiscordants dans 6 pays africains. Nous avons aussi écouté Israël Ganoué du RAP+, le réseau africain des personnes vivant avec le VIH. Notre consultant, le docteur Amangin Kap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci.
Nous remercions également Firmin Koyaweda pour la synthèse d'actualité santé et Chouchou Kaoa, notre correspondante à Kinshasa. Pour vous présenter cette édition, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de
Mohamed Oumfa.
Restez à l'écoute des programmes de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car
votre santé, c'est votre avenir.
Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique. C'était
Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.